Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
Cinq minutes avant l'antenne, dans la régie du studio de Par Jupiter.
Salut la technique, tout roule Régis, là on est prêt?
Ouais, je règle les micros là pour l'instant, il y a Juliette et Guillaume en studio.
Bien sûr, mais c'est sûr, Mélenchon en Argentine, ça va nous faire des blagues.
Attends, hey, la République, c'est moi!
Oh là, avec eux, tu me règles au minimum les micros là.
Ah bah, si je pouvais aller dans le négatif même.
Oh, Charline, tu viens en studio?
Ouais, je vais arriver, mais on règle les derniers trucs techniques là.
Ah. Je crois qu'elle a oublié qui était l'invité.
Je t'entends Juliette, c'est qui l'invité déjà d'ailleurs?
Ah non, c'est un tout petit vieux comédien, pas très joli hein.
Bon bah vous avez pas besoin de moi alors.
Non mais t'inquiète, Vincent est pas non plus, il a pas besoin de toi.
Chut, Guillaume.
Qui ça? Régis, j'ai pas bien entendu là.
Ouais c'est normal, là je suis en plein réglage, attends laisse-moi une minute.
Non mais Guillaume, mon plan c'est de laisser Charlie bloqué dans la régie.
Ah pour te garder Vincent Elbaz pour toi toute seule, c'est
mais
ça?
Mais qu'est-ce qu'ils disent? Mais remets le son là, j'entends rien.
Voilà.
Non mais attends, mais Juliette, t'es pas capable de faire une heure d'entretien hein?
Mais bien sûr que si.
Mais t'es même pas journaliste.
Et alors? Je peux poser des questions super pertinentes, surtout à Vincent Elbaz.
Et quel genre de questions tu poserais?
Ah ça y est, je les entends là. Juliette, mais qui veut poser des questions à qui là?
Non mais attends, Charline, c'est Juliette, elle veut se garder l'interview de Vincent Elbaz pour elle toute seule.
Cave. Ok, bah Juliette, bah je te laisse faire dans ce cas. Hein,
c'est vrai? Cool, merci.
Bon, Régis, tu me coupes immédiatement le micro de Juliette, hein, jusqu'à la fin.
Ok.
Bonjour la France Inter, vous écoutez la start-up de la radio publique, celle dont la devise du jour est « Mieux vaut être seul en one-to-one que mal accompagné en B2B ». Et voici le sommaire du PowerPoint qu'on va dérouler jusqu'à 18h avec Juliette Arnaud. C'est moi qui commence, c'est vrai. Deux militants.
C'est bien avancé.
J'ai l'impression. C'est lundi.
Ouais,
c'est lundi.
On rend encore la nouvelle version de l'émission.
Il n'y a pas eu de radio training.
Non.
Deux militants écologistes qui ont décroché un portrait de Macron dans une mairie sont jugés aujourd'hui à Lyon. Ils font partie des nombreux décrocheurs qui subtilisent les portraits pour réclamer au président des mesures à la hauteur de l'enjeu climatique, désobéissance civile pour les uns, délit pour les autres.
Qui vole un œuf, bute un veuf.
Ce week-end à Boston, une centaine de partisans de Trump ont jugé utile de manifester pour l'hétérosexualité, qu'ils considèrent comme opprimée par rapport à l'homosexualité. Ouais. Je me demande comment ça peut se passer quand un de ces gars-là est DRH.
Le point commun entre Gaëtan, Hervé et Monsieur Roger.
Ils sont à la compta?
Faux, ils sont PD. Alors tu me les vires, d'accord? Je remarque que ce soit à Gay Pride à la Cantoche.
Quel fringue a choisi votre ado pour réussir sa rentrée? Il veut être bien sapé pour être bien vu par leurs congénères. C'est plutôt bon signe quand ça ne plaît pas forcément aux parents.
Christine, tu t'es trompée de vêtements ce matin en t'habillant.
Juliette, là c'est à vous. Qui a répondu à l'appel? Là c'est à vous.
Eh bien, a répondu à l'appel une belle équipe qui incarne, comment dire, la masculinité alternative. Celui que dans les années 80, ses conquêtes multiples surnommaient la force intranquille. En toute simplicité, Hippolyte Girardot.
Elle parlait de toi.
Je
croyais que c'était moi. Bonjour. J'étais au primaire en 80.
Bonjour lundi, bonjour à vous. Moi j'ai fait un truc sur le mea culpa.
Génial.
Il y a peut-être une référence à l'actualité si ça se trouve.
Peut-être.
C'est lui qui ensuite ça sera celui qui est l'Attila des marchés parisiens et autres salons de l'agriculture car après son micro l'honneur ne repousse pas. Guillaume.
Bonjour à tous. Et ben c'est la rentrée des classes qui cette année se fait sous le signe des inquiétudes des professeurs et les Français également sont très inquiets pour eux.
On n'en a rien à foutre.
Pas tous, mais il y en a, ils sont inquiets quand même.
Et enfin, Thomas Croisière, l'oxymore de la masculinité alternative en une question. Comment incarner la virilité quand on est blond vénitien?
Vous avez de la chance que je ne comprenne pas ce que veut dire oxymore. Et moi, en tout cas, je suis là pour vous parler de cinéma et du film de notre invité, bien évidemment.
Et oui, voici celui qui va enjailler l'open space. Je vous laisse nous annoncer qui vous êtes. Vous êtes...
Bonjour.
Et là,
bonjour.
Lui, c'est...
Vincent Elbaz, enchanté.
Évidemment.
C'est sympa cet accueil. Je suis un vrai petit épagneul dans une prairie. Là.
C'est une belle image, Vincent Elbaz.
Ils ont fait pareil pour Jean-Louis Debré, hein, donc vous en prenez pas quand même.
Ah oui, d'accord. Okay.
Vincent Elbaz, vous êtes à l'affiche du film Andy, réalisé par Julien Veil. C'est un premier long métrage de ce réalisateur avec Alice Taglioni, Philippe Curat, Jacques Weber notamment. Thomas, votre personnage a toujours vécu au crochet de ses petites amies.
On peut dire ça comme ça.
Ouais. Et vu qu'il est, c'est-à-dire qu'il comptait sur un hébergement.
Ah oui.
Et vu qu'il a rompu avec la dernière, il est à la rue. Heureusement, la dernière copine travaillait dans le social et donc elle lui trouve une place en foyer. Foyer où il rencontre une très jolie travailleuse sociale aussi, Alice Taglioni. Oui. Jolie mais intraitable, assez rude. Oui. Et pour rester au foyer, bien sûr, vous devez trouver un boulot. C'est la règle, vous n'avez jamais vraiment travaillé. Vous êtes plutôt beau gosse mais paresseux. Vous serez escort boy, vous vous lancez là-dedans. Mais vous vous révélez incompétent.
Oui, je monte ma petite entreprise. Ouais, c'est vrai. Non. Oui, 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 trop sensible le mec là pour ça. Oui, c'est vrai,
ah,
c'est vrai.
Vous appelez ça trop sensible, trop sensible.
Oui, 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 c'est vrai. Il arrive pas. Il a du mal quand il y a pas de sentiments. Quand c'est d'un coup qu'il y a de l'argent, tout ça, ça devient un vrai travail. Mmh. Et en fait, son problème, c'est qu'il est allergique au travail. Lui, il peut pas travailler, donc dès que ça devient un job, c'est difficile. Mais il a besoin d'aide. Alors, il va demander de l'aide au personnage d'Alice Taglioni. Qui est une femme un peu pas allergique au mec, mais enfin elle a été un peu maltraitée quand même, donc mm-hmm. Et il lui demande d'intervenir, quoi,
alors qu'elle travaille dans le social. Il lui demande de faire des coups,
ouais,
pour de l'argent.
Il lui demande de faire des trucs et puis elle intervient, mais très violemment. Elle lui met des gifles pour détourner l'attention de la cliente.
Voilà, c'est, on peut dire qu'il y a un côté comédie romantique assumé.
Oui, oui, bien sûr. Oui, ça joue avec ces codes-là.
Il se tourne autour, ça joue avec ces codes-là.
C'est une rencontre.
Mais dans le cadre d'un foyer SDF. Alors, il faut l'assumer complètement.
C'est un foyer social, parce qu'il paye un petit loyer modique. On leur demande de travailler en échange du loyer, en échange de la chambre. Donc, non, c'est pas des SDF, mais oui, ils sont un peu.
Enfin, ils l'étaient, ils ne le sont plus.
Bah, alors, lui, on va dire que c'est un peu un ex. Beau mec, un peu, qu'il a pris un peu de poids, il perd un peu ses cheveux,
et
où est le problème? Non, s'il n'y a aucun problème. il est toujours là, il est toujours vivant, il est toujours bien, il est top.
Okay. Arrêtez de me regarder, ça me dérange, monsieur Elbaz.
et qui veut s'en sortir, il se dit, bon, je vais faire escort boy, ça va pas être bien difficile, quoi. Mais à partir du moment où la cliente pose l'argent sur la commode, elle a le pouvoir, quoi. Mm-hmm. Ça devient un objet, et ça, d'un coup, il se retrouve dans des situations un peu de vulnérabilité, quoi.
Et c'est aussi un cœur tendre. Justement, vous êtes longtemps battu pour vous dégager aussi du personnage de Chabert dans Le Péril Jeune de Cédric Clapiche. C'était votre tout début, c'était votre premier film.
Oui.
Est-ce que le personnage aujourd'hui d'Andy, malgré tous les rôles que vous avez joués entre hier et aujourd'hui, c'est un peu un héritage de ça quand
un
même.
Peu,
ça
un
pourrait
peu.
Être lui qui a vieilli.
Ouais. Non, j'en avais un peu marre, mais c'est vrai que quand il m'a proposé ce rôle, je me suis dit il a un humour, Julien Veil, qui me fait tellement rire, et il réinvente un peu le comique de situation, je trouve. J'ai lu des situations que j'avais jamais vues dans le cinéma français ou que j'avais jamais joué. Et il me proposait de pousser le truc un peu plus loin en faisant un personnage comme ça. Sur le retour, quoi, vraiment, voilà, c'était, donc ça m'a bien fait rire. Et il y avait cette phrase à un moment donné, ce mec qui sort de sa douche en disant, tu sais, moi, je suis un peu un mélange entre Hugh Grant et Richard Gere dans Pretty Woman. Et je m'étais dit, si le mec a un peu du gras du bide et qui galère avec ses cheveux, et que ça peut être très drôle, un personnage qui n'a pas cette distance sur lui-même et qui est persuadé que tout va bien se passer, sauf que c'est des personnages de grands branleurs qui me font toujours rire au cinéma. Donc voilà, j'espère que ça fera rire les spectateurs.
Mais alors justement, c'est quand même Andy, c'est un sommet de loose, et il coche aucune des cases de la soi-disant virilité. Il est allergique au boulot, il est SDF, il est pas trop bon à la bagarre, et il a une capacité érectile, clairement qui est douteuse, pendant qu'Alice Taglioni, elle distribue des baffes aussi bien que Lino Ventura.
Oui, oui, oui,
alors,
tout à fait.
En tant qu'acteur, on se réjouit ou on serre les miches, ou les deux?
Non, ça me réjouissait de jouer ça. C'était très très drôle, et puis j'aimais cet humour un peu décalé à l'anglaise, et ces situations qui inversaient un peu les rôles, quoi, où le pouvoir, il était un peu de l'autre côté, chez des femmes qui arrivent, qui ont l'air vulnérables, qui ont besoin soi-disant d'affection, etc. Et puis dès qu'elle pose le blé sur la table, il n'y a plus de pitié, quoi. Enfin, un truc, c'est assez drôle à faire, à travailler et de se retrouver dans ces situations-là, c'était assez rigolo. Mais c'est vrai que quand on vous dit non, finalement, vous êtes comme les mecs, quoi. vous insistez lourdement, quoi.
Ça y est, on va lancer un petit débat, mine de rien.
C'est à voir en salle mercredi, Thomas Croisière, il reviendra tout à l'heure. Ça s'appelle Andy, réalisé donc par Julien Veil, un premier long métrage avec Alice Taglioni, Philippe Cura notamment, et Jacques Weber, et l'actrice qui joue votre maman,
Brigitte Roy.
Ah, Brigitte Roy, voilà, oui, oui, oui. Oui, parce que même sa mère l'a oublié. Enfin, c'est un truc, c'est un mec qui a besoin d'aide, qui va chez ses parents et qui va demander un peu d'aide à ses parents et qui en galère. Et ben, il se rend compte que sa mère
ça
se souvient plus de lui.
Qu'il leur demande de l'aide.
Et, oui, c'est vrai qu'il a des quelques dettes et son père a découpé sa tronche des photos parce que il en avait marre de dire à sa femme, mais c'est ton fils, de lui rappeler tout le temps le truc. Donc il a enlevé sa tête.
Et on vous rappelle que c'est une comédie, donc c'est fait.
Hey you, don't watch that. Watch this. This is the heavy, heavy monster sound. One step beyond.
Évidemment. Sur France Inter, vous écoutez Par Jupiter. C'est Vincent Elbaz qui nous accompagne jusqu'à 18h. Vous pouvez le voir dans Andy, en salle mercredi, avec notamment Alice Taglioni. Pour en parler tout à l'heure.
Mais il y aura Thomas Croisière. Ouais. Ah. Et puis avant Thomas Croisière, il y aura Guillaume Meurice. Et avant, il y aura Pierre-Luc Girardot. Ça va être super.
Bien sûr. Et pour entamer, l'amuse-bouche, c'est le journal.
Comme tous les antisémites, j'étais un impuissant. J'étais un raté et j'étais un faible.
Le mal, journal de presque 17h17.
C'est marrant que c'est toujours les nazis qui ont le mauvais rôle.
Et on commence avec les titres.
On parlera de Donald Trump.
Oui, on parlera donc de mort cérébrale.
On parlera également de Yann Moix.
Oui, on parlera donc de mort cérébrale.
On parlera également de Michel Sardou.
On parlera donc de mort cérébrale. Et on va d'ailleurs commencer par Michel Sardou. Il était chez nos confrères de RTL ce matin et il est en grande forme. Comment il la trouve, notre époque, Michel?
Je hais ce siècle. J'aime pas du tout.
Mais qu'est-ce qui vous irrite?
Tout.
Voilà, on est sur une grande petite forme. Ah, on va laisser se reposer un petit peu, Michel.
Oui, on va passer à l'actualité internationale.
Voilà, Donald Trump a déclaré n'avoir jamais entendu parler d'ouragan de catégorie 5, alors qu'il y en a eu 4 durant son mandat.
Oui, d'ailleurs, Emmanuel Macron en a profité pour déclarer « J'ai jamais entendu parler des gilets jaunes ».
Voilà, et cette semaine, rien ne sera épargné au continent américain.
En effet, outre ces ouragans et les incendies, une troisième catastrophe naturelle a fait son apparition sur le continent en la personne de Jean-Luc Mélenchon.
Terrible, terrible. Alors, attendez, on va voir Michel Sardou, on va revenir sur Michel. Est-ce que ça va mieux, Michel?
Maintenant, tout est des réseaux sociaux ridicules où des gens s'expriment quelquefois bien, mais très souvent, c'est des abrutis. Qu'est-ce que je veux dire?
Non, rien, Michel. Non. N'oublie pas ton Lexomil. Allez, on enchaîne sur l'agenda de la semaine.
Oui, agenda. C'est l'anniversaire aujourd'hui de Jack Lang. Oui. Une idée cadeau?
J'avais pensé à une raquette de tennis.
Elle fait du tennis?
Oui, il a un très beau revers, comme son visage, lifté.
Très bien. Suite de l'agenda.
Demain, mardi, Bruno Le Maire rencontrera son homologue américain afin de poursuivre les discussions sur la taxation des GAFA.
Une rencontre qui s'annonce musclée. La dernière fois que Bruno Le Maire est allé au siège de Google, il a taxé un stylo.
Ah, il rigole pas, Bruno. Mercredi, Cédric Villani devrait annoncer sa candidature à la mairie de Paris.
Pour une fois, Cédric Villani a décidé de ne pas calculer quelque chose.
Oui, en effet, il ne va pas calculer Benjamin Griveaux. Mercredi marquera aussi le début des journées parlementaires du PS à Avignon.
Oui, si vous devez prendre, vous devez vous rendre à Avignon mercredi, Bison Futé annonce une journée verte sur les routes.
Oui, ça devrait pas se bousculer avant de partir. Alors, attendez, je crois que Michel a un avis sur la circulation routière.
Ils nous prennent pour des cons, quoi. On peut plus rouler vite. Alors qu'avant, on mettait 6 heures pour aller à Marseille, il n'y avait aucun malaise, c'était bien.
Bah ouais, 6 heures pour aller à Marseille, 8000 morts par an sur les routes, c'était la belle époque. Allez, passons à vendredi.
Oui, avec l'ouverture de la foire européenne à Strasbourg, l'occasion pour Marine Le Pen de renouveler son stock de chauffeurs et de gardes du corps.
Une page média à présent.
Oui, télévision, Thierry Beccaro a fait ses adieux à Motus en ayant présenté la dernière émission samedi dernier.
Oui, c'est un coup dur pour les téléspectateurs. Maintenant, pour voir des gens caresser des boules à la télévision, il ne reste plus que l'interview de Christophe Castaner par Jean-Pierre Elkabbach.
Justice. Présent.
Oui, YouTube va devoir payer 200 millions de dollars pour avoir ramassé des données de mineurs.
Oui, on attend toujours l'amende de Christian Quesada pour avoir ramassé des mineureux.
Ouais. Est-ce qu'on a des nouvelles de Michel? Michel Sardou, est-ce qu'il va mieux?
Le téléphone portable, je hais ça. Les réseaux sociaux, n'en parlons pas.
Je déteste ça.
Et les gilets jaunes, et les gilets rouges, et les gilets bleus, et les gilets verts, et merde, ça va.
Bah, il va pas mieux. Ça va pas mieux.
Mais ça va mieux que dans cette brève puits de dôme, il arrache le doigt de son beau-père et l'avale.
Ah, ben ça va pas mieux dans la famille de Yann Moix.
D'ailleurs, en parlant de ça, BHL a pris la défense de Yann Moix.
Oui, alors BHL qui prend la défense de Yann Moix, c'est comme le paludisme qui prend la défense d'Ebola.
Allez, on termine avec Michel?
Oui, alors, est-ce que Michel, il a finalement trouvé quelque chose qui lui plaît dans ce monde? C'est ça la question qu'on se pose. Peut-être alors au niveau politique.
La seule politique que je pratique, c'est que je fais partie du parti animaliste. Voilà.
Oh! Et voilà. Michel, ouais. Après avoir fait chanter les blaireaux, va voter pour eux. Allez, hop. Vous l'avez mis dans ma voix, ça, Guillaume.
Ouais, je trouvais que ça allait bien.
Et le blaireau vous embrasse. Merci beaucoup. J'adore chanter Michel, je vous le rappelle.
On est les premiers à l'écouter, je vous dirais. Donc, 17h25.
Ah bon? Oui.
Bah oui.
Peut-être pas les premiers. On est dans le top 10.
Mais vous l'avez encore chanté lundi dernier à un tournon, je vous le rappelle.
On le chante. Allez, 17h25. Vous écoutez France Inter. C'est Vincent Elbaz qui nous accompagne pour un film qui sera en salle mercredi qui s'appelle Andy. On va pour l'instant parler de tout autre chose, car c'est Thomas Croisière qui va se charger du film. Deux militants écolos sont jugés cet après-midi à Lyon pour avoir décroché le portrait du président de la République dans une mairie. Ils font partie d'un gang qui sévit dans tout le pays. 128 portraits ont déjà été empruntés, on va dire. Ils seront restitués dès qu'Emmanuel Macron prendra des mesures à la hauteur de l'enjeu climatique. Autant dire qu'on ne les reverra jamais, ces portraits. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le président du tribunal de Bourg-en-Bresse qui a déjà jugé d'autres activistes pour le même méfait. Et puis, il y a les maires qui cache le fait que le portrait soit caché.
Vous avez été saisi récemment?
Non, pourquoi?
Parce qu'il y a des traces plus claires sur les murs, comme si on avait retiré des tableaux.
Il voit tout, il est formidable. Non, il voit tout, t'es formidable, Lucien.
C'est Daniel Prévost et Jacques Villeret, bien sûr, dans Le Dîner de cons, le film de Francis Weber. Alors, il y a 10 procès qui doivent avoir lieu et qui concernent 36 prévenus. Des procès à Bonneville, Lyon, Paris, Orléans, Mulhouse, Grenoble. Il y a tout vraiment un mouvement national de ce qu'on appelle les décrocheurs.
Ouais, il y a une mafia, quoi. Il y a une vraie mafia. C'est ça.
Je vais vous dire ensuite pourquoi on a choisi ce sujet. Vincent Elbaz, qu'on vous l'a soumis. Mais déjà, est-ce que vous avez de la sympathie pour ces mouvements?
Ce genre d'action, oui. Ouais. Ce genre d'action, oui, parce que c'est une action non violente et qu'elle a du... Je sais pas, Elle est à la fois cocasse, drôle et il y a du sens, il y a une démarche.
Quand il y a du sens et un peu d'humour dans la démarche, c'est acceptable.
Oui.
Il y a des actions de désobéissance civile dont vous vous rappelez, qui vous ont marqué ou que vous avez aimé. On a connu celle déjà avec José Bové, par exemple, fauchage d'OGM ou démontage de McDo. Et là, il y a plus d'humour, peut-être.
quel mouvement?
Il y a eu vol de chaises dans les banques pour dénoncer l'exil fiscal.
Ah oui, d'accord.
On peut vous en proposer une, c'est manger du cassoulet. Manger du cassoulet en groupe avant d'aller écouter
Zemmour dans une conférence.
C'est pas mal. Non, j'aime bien le décalage entre la peine encourue et le délit, quoi.
Ah oui.
Ouais, c'est, ça a encore plus de sens.
Le procureur avait requis 2000 euros.
La photo à 8 euros et...
Exactement, 8 euros. Parce que...
Quoi, parce que quoi?
8 euros, pourquoi vous dites 8 euros?
Je sais pas, ça coûte rien une photo, non?
Ouais, sur la boutique de l'Elysée, effectivement, le portrait est en vente à 8 euros.
Ah oui, c'est ça. Elle a augmenté, j'ai lu là.
Ah oui.
Ça a pris un euro.
Ah ouais,
la photo avait pris un euro depuis qu'elle a disparu.
Parce qu'elles sont plus rares.
Ah bah, ouais, ça ouais. Se fait rare et voilà.
Vincent Elbazan a choisi notamment ce sujet parce que vous avez une éducation qui s'est faite dans un esprit peut-être parfois pas très éloigné. Des parents post-68 ans. Ouais, vous avez tenté de vivre en communauté quelque temps. C'est
un
la
été,
légende.
Il y a eu un été. Non, c'est pas. Non, la légende, c'est de dire j'en ai vécu en communauté. J'ai pas vécu en communauté. Non, il y a un été, mais j'étais mou. Moi, j'étais petit. Je suis en 71. Meuf. Attendez, j'ai pas 72 ans.
Vous étiez raélien, on le sait.
Non, j'étais... Ouais.
Alors quoi, 76, 77?
Non, j'avais 2-3 ans, donc j'ai des souvenirs vagues voilà, de ça. Non, on a fait un été en communauté, et une communauté un peu... je m'en souviens pas, mais ce qu'on m'a raconté, un peu très extrême-gauche, très... Très, on va vivre en autarcie, on va se démerder tout seul. Donc, un peu surveillé par les RG, paraît-il, un truc un peu comme ça. On est resté un mois et demi l'été, quoi, puis on s'est barré, parce que j'imagine que mes parents, heureusement, étaient pas naïfs, quoi. Enfin, je veux dire, voilà.
Pas aussi utopiste que pour prolonger l'expérience.
Non, mais oui, un peu anticonformiste, ouais. On aime bien les artistes, les marginaux, les.
Il vous reste quelque chose. Il vous reste quelque chose de ça, bon. Cette éducation aujourd'hui?
Ah, je ne sais pas, parce que vous savez, moi, je vais faire mon marché, boulevard Saint-Germain, là. Donc, avec mon vélo. Donc, bon. Je ne sais pas, j'imagine qu'en situation de difficulté, je réagirais avec ces valeurs ou ces modes de fonctionnement qu'on m'a transmis. Mm-hmm. Pour l'instant, j'ai pas eu l'occasion.
Bon, alors, le passé, les gens n'en savent trop rien, mais tout le monde a vu le Péril Jeune, et dans le Péril Jeune, vous étiez quand même une certaine idée de la fronde.
Qu'est-ce que je viens de dire, Chauvet?
Ouais.
Et donc, je me disais que, moi, si j'étais d'extrême gauche ou que j'avais un mouvement de désobéissance civile, c'est quelqu'un comme vous que je viendrais solliciter pour participer à ce genre. Vous réagiriez comment?
Ça dépend.
Si c'est des actions de désobéissance comme ça, assez rigolotes et qui.
Pas, on ne l'a jamais proposé.
On vous l'a jamais proposé.
Je sais pas, non, on n'est jamais.
L'appel est lancé.
Proposer ça, mais bon,
proposer à Chabert quand même, ça le fait.
Ouais, ouais. Oui, mais ils étaient. Non, mais de Péril Jeune, c'est déjà la génération. Je trouve, dans le film, où ils sont dépolitisés un peu, ils s'en foutent un peu, quoi. C'est après 68, je me souviens que dans ce film, il y a un petit côté, on s'en branle un peu, il n'y a pas de conscience politique. Il y en a un qui a vaguement une conscience politique dans le film, mais...
Et c'est marrant dans ce studio de voir côte à côte Chabert et Hippo, d'un monde sans ratif. À qui on laisse la parole, Hippolyte Girardot.
Oui, allons-y. Le mea culpa. Une invention bien pratique de la religion catholique. Une formule magique qui a permis à cette religion de conquérir le monde. Parce que c'est pas très compliqué de faire une prière pour se débarrasser de nos saloperies. Demander pardon pour ses fautes permet de s'en sortir. Il paraît qu'il y a même un barème de prière pour ça. Un Notre Père, deux Je vous salue Marie et que je t'y reprenne pas. Mea culpa, mea maxima culpa. Yann Moix a donc fait acte de contrition samedi devant la France qui regarde Ruquier. Bon, alors le type, il a quand même très mauvaise mine, faut l'avouer, et il vient pour parler de son livre, et chez son ancien patron pour faire son mea culpa et demander pardon. Ça dure 1 minute 21, et c'est vrai, il est sincère, il demande pardon. C'est pas comme un gosse à qui les parents vicieux diraient « Mieux que ça, j'ai pas bien entendu, pardon, mais pardon qui ?»« Hein? Plus fort, j'entends pas bien. Pardon qui ? La communauté juive ? Mieux que ça, s'il te plaît !» Non, Yann Moix, il dit « Vraiment ?» Pardon. Et l'émission marche très bien, on lui pose des questions, il répond sincèrement, et au final, finalement, son livre dont il ne parle pas est en troisième place des ventes Amazon ensuite. Mea culpa, formule magique dans cette France aux fortes valeurs chrétiennes, Moex, maximal culpa. Mea culpa. Ceux qui imaginaient que la mise au pilori de ce garçon permettrait de revenir sur sa stigmatisation des femmes de 50 ans, très sincèrement, encore une fois, permettrait un riche débat sur la misogynie violente de notre pays, en étaient pour leurs frais. On fait du spectacle, les mecs, pas du psychodrame national, faut pas déconner. Mais la religion à la télé, ça marche moyen, en fait. Ça fait un peu jouer, un peu comme dans les films pornographiques. On montre tout comme en vrai, mais tout sonne faux. Parce que si on voulait que ça marche vraiment, fallait dire ça en grand. Genre Game of Thrones avec Cersei, la diabolique Lannister qui doit marcher nue dans la foule.
Shame. Shame.
Ah, ça c'est beau, on imagine Yak Moix nu, remontant l'autoroute A1 jusqu'au studio dont on n'est pas couché, avec convocation de figurants, mais cette fois pas pour applaudir, mais pour jeter des détritus, huer sur son passage des insultes, etc., etc. Je vous laisse libre d'imaginer vos pires envies, camarades et auditeurs. Là ouais, putain, ça aurait de la gueule. Ça aurait de la gueule, l'émission comme un match entre les bons et le méchant, lui, expiant sa faute en pleurant et saignant, et nous, tellement bon, magnanime, et surtout soulagé, qu'il s'en prenne une bonne, d'abord parce qu'il le mérite, ça c'est clair, et qu'ensuite on puisse rester dans le silence sur l'antisémitisme endémique, les violences meurtrières contre les femmes et les tortures familiales intramuros. Un silence qui ressemble à une omerta dans un pays qui a la formule magique « mea culpa, mea moitsima culpa ».
Hippolyte Girardot. Merci Hippolyte.
Je ne sais pas s'il faut dire merci ou pardon.
Merci. Allez, on est ensemble jusqu'à 18h avec Vincent Elbaz. Vous écoutez France Inter.
Toujours en survêt comme Jürgen Klopp. Ça sent bon, c'est pas une club. Ça pousse de l'autre côté du globe. C'est réservé aux membres du club. Toujours en survêt comme Jürgen Klopp. Ça sent bon, c'est pas une club. Ça pousse de l'autre côté du globe. C'est réservé aux membres du club. Banana, cheese, blueberry. Elle m'embrasse et je loupe mes rimes. Objectif à peine dévoilé. Space, cookie, par chef étoilé. Les ladies nous remercient. Arrivé jeudi, parti mardi. Je rallume le spardi si samedi. Appelle tes amis si c'est samedi. Toujours en survêt comme Jürgen Klopp. Ça sent bon, c'est pas une club. Ça pousse de l'autre côté du globe. C'est réservé aux membres du club.
Dispensaire à L.A.
Petit club à Barcelone.
Coffee shop à Dame.
J'suis brisé comme porcelaine.
Un nouveau style de locomotive.
Ah, protège-toi à nos confrères. Ah,
parce qu'il y aura des pogos d'office. J'donnerai aucun de mes bocaux aux flics.
Avant l'égalité, on a légalisé. Garantie, l'amour, la quantité, la qualité.
La tête entre les nuages et les avions. Ça fait 10 ans que je suis en élévation. Les barreaux qui nous enferment, faudrait que nous les effacions. Avec Marie-Jeanne, j'ai préparé l'évasion.
Toujours en survêt comme Jürgen Klopp. Ça sent bon, c'est pas une club. Ça pousse de l'autre côté du globe. C'est réservé aux membres du club. Toujours en survêt comme Jürgen Klopp. Ça sent bon, c'est pas une club. Ça pousse de l'autre côté du globe. C'est réservé aux membres du club. Y'a pas écrit entrée gratuite. Presse comme sur ta tweet. Train que ça parle et que ça tweet. Billet dans un sac Dior. Concu dans la salle d'or. Je célèbre avec un salto. Désolé si j'ai l'air désagréable. C'est parce que j'suis encore clean. J'suis trop chaud. Allumer la clim. J'suis sapé comme si j'avais un Clio.
J'me sens luire comme une enclume. J'suis membre du club. Elle colle comme la glu.
Grande bouffée, air pur, les clés sont perdues, où est la voiture? Toujours en survêt comme Jürgen Klopp. Ça sent bon, c'est pas une club. Ça pousse de l'autre côté du globe. C'est réservé aux membres du club. Toujours en survêt comme Jürgen Klopp. Ça sent bon, c'est pas une club. Ça pousse de l'autre côté du globe. C'est réservé aux membres du club.
Oxmo Puccino, Social Club, vous êtes sur France Inter, par Jupiter. Oh, ça rigole dans ce studio, j'espère que vous aussi, chez vous. Si vous nous rejoignez, bienvenue. Vous récupérez les enfants qui sont rentrés à l'école, qui sont polytraumatisés déjà le premier jour.
Oh, c'était dur.
J'ai fait la rentrée ce matin.
Ah, alors vous allez nous dire tout à l'heure, on a fait
je croise des pères en chemise, mais trempés.
C'est vrai.
Ils ont déposé un gamin de 4 ans dans une salle de classe, ils sont trempés. Ils ont pris un coup de pression, tu sais.
Vincent Elbaz, on va en parler justement tout à l'heure de la rentrée du look des ados. Vincent Elbaz, on peut vous voir au cinéma mercredi dans Andy, film de Julien Veil avec Alice Taglioni, Philippe Cura, Jacques Weber notamment.
Brigitte Rouen, Alison Paradis.
Voilà. Et puis Thomas Croisière va nous en parler dans quelques instants. Avant cela, l'autre traumatisme de la journée, c'est toujours d'entendre Guillaume Meurice.
Ben moi, je vais vous parler rentrée des classes aussi. Hein, c'est un grand jour pour les élèves, mais aussi pour les profs. Et oui, allez au boulot, l'auditorat de France Inter, là. Hein, on arrête de bouffer des crènes en écoutant Christophe André et on retourne cultiver sa dépression nerveuse devant 40 futurs chômeurs fans de PNL. Hein, et oui, la vie, c'est pas une émission d'Ali Rebeilly, hein. C'est plutôt une tartine de cérumen de Michel Houellebecq à tremper dans son seum tous les matins. Et si vous doutez encore un petit peu de ce que je dis, rappelez-vous que votre ministre, c'est Jean-Michel Blanquer. Ah, monsieur joie de vivre. Comme on l'appelle au salon des croque-morts, hein. Le gars qui ferait passer un crématorium pour un cabaret burlesque. D'ailleurs, je vous rappelle que Brel, quand il écrit avec un ciel si gris qu'un canal s'est pendu, il connaissait pas Jean-Michel Blanquer. Sinon, il se serait pas fait chier avec des métaphores, le gars. Ah, il aurait appelé sa chanson ministre de l'Éducation nationale et ça aurait été encore plus glauque. Alors. Ce qui est bien avec l'éducation nationale, c'est que tout le monde a un avis. Et ça tombe bien, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est l'avis du peuple des Lumières. Je suis donc allé à sa rencontre.
Le professeur n'a plus aucune autorité. Les enfants ont toutes les libertés de dire ce qu'ils ne savent pas.
Oui, je me suis dit, voilà, c'est bien de commencer avec un bilan qui n'est pas anxiogène. Un petit résumé hein, qui pose les bases de là où on en est. On est donc dans la situation d'une couille molle devant des débiles tyranniques. Hein. Ça nous rappelle un petit peu la situation de François Hollande devant le MEDEF, finalement. Alors, il est temps de se reprendre. Jean Mimi a proposé de mettre les paroles de la Marseillaise et le drapeau français dans les classes, ça c'est bien. Pourquoi pas le retour de l'uniforme ?
Oui, l'uniforme, surtout un dress code.
Qu'est-ce que vous appelez un dress code ?
Un dress code qui ne vienne pas avec le ventre nu, qui ne mette pas des baskets et des trucs colorés, qui sait tous quelque chose d'uni, quelque chose de... et qui ait des vêtements pour respecter les professeurs. Après, il faut aussi que les professeurs eux-mêmes, ce serait pas mal qu'ils aient eux-mêmes un dress code.
Alors, dress code pour les élèves, dress code pour les profs, voilà, il faudrait peut-être même, je dirais, un dress code pour le service public en général, parce que je vois comment sont habillés les chroniqueurs et chroniqueuses de France Inter. Je veux dire, quand Vincent Elbaz il est rentré en studio tout à l'heure, il croyait que c'était une ZAD. Il a demandé un bol de tofu et tout. Enfin bon, heureusement que je suis là un petit peu pour relever le niveau vestimentaire de l'émission. Sinon, faites un effort, c'est une question de quoi ?
Je trouve, si vous voulez, que c'est une question de respect. Vous voyez ?
En quoi avoir des baskets est un manque de respect ?
J'en sais rien.
Non, on sait pas, mais on s'en fout, on n'est pas là pour questionner les choses, c'est comme ça. Les baskets, pas respect, les mocassins à glands, respect. Attention piège, des tongs Louis Vuitton.
Oh là là.
Ah, là, on est dans la merde. Bon, ben, on verra. On faudrait, en début d'année, faire une liste des chaussures qui inspirent le respect. Voilà. On se démerdera plus tard. Et on pourrait ainsi se consacrer à l'apprentissage. Hein. C'est ça qui est important. Parce que là, ça laisse à désirer.
Je trouve que le niveau est beaucoup plus bas qu'avant. Et moi, j'ai des petits-enfants, je les booste, mais je reconnais qu'ils ont un niveau intellectuel plutôt inculte, même s'ils ont leur bac. Et pourtant, un bac
un
S. Mais
je suis...
Par rapport à vous, c'est-à-dire qu'ils sont... Ils sont...
Oui, je l'ai en...
Par exemple, qu'est-ce qu'un logarithme népérien ?
Alors ça, j'en sais rien.
Ah merde, là, c'est con parce que c'est au programme du bac S, justement. Ça, c'est un coup à niquer le prochain repas de famille. Papy, explique-nous la dynamique newtonienne. Ah, ça fout la merde. Alors, petite astuce, quand vous avez un débat comme ça, vous déviez le débat en disant bien fort, vous trouvez pas qu'il y a un problème avec l'islam dans ce pays ? Hop, là, normalement, c'est bon. C'est la méthode Blanquer, hein, d'ailleurs. Hein. On l'a vu récemment. Dis donc, Jean-Mimi, tu vas lâcher des thunes pour l'école ? Attention, derrière vous, une petite musulmane qui va pas en classe. Ça fonctionne parfaitement. Hein, parce que si on continue sur le logarithme, voilà ce qui peut se passer. Hein.
Non, honnêtement, je vais me poser une colle.
Peut-être que vos petits-enfants, ils savent.
Peut-être qu'ils savent, mais moi, j'ai pas la science inculte.
Il n'a pas la science inculte, bien évidemment. Il ne sait pas tout sur le bout des foies. Hein, voilà. Hein, s'il fallait tout savoir, on serait pas sorti de l'asperge. L'important, c'est pas ça, c'est d'avoir des professeurs qui marquent une vie.
J'ai un souvenir de mon instituteur en fin d'études, monsieur Massias. Je suis désolé, mais sur une classe de 38 élèves, parce qu'il y avait 38 élèves en fin d'études. Hein.
Est-ce qu'on dit vraiment 38 élèves ?
Ah oui, non, c'était 38 élèves. Hein. Ah ouais, non, je vous remets, moi j'ai encore mes cahiers.
Est-ce qu'on dit pas 38 élèves ?
Ah, 38 élèves. Oh oui,
Oui, oui.
Ah non, mais comme le niveau baisse, je m'appelle.
Le niveau baisse pour moi aussi.
Ouais, le niveau baisse pour tout le monde. Hein. On a des présentatrices d'émissions incapables de dire 8 correctement. Ah non, donc ça n'étonne personne. Allez, il est temps de conclure. Hein, comme on a débuté avec un petit état des lieux.
Pour quand même le reconnaître, il y a beaucoup d'absence, d'absentéisme par des maladies bidons et que bon.
La part des élèves ou des profs?
Des profs.
Allez, on vous souhaite une bonne année pleine de maladies bidons, les profs. Merci d'essayer de faire une société moins con avec les cacahuètes que vous envoie Jean-Mimi Blanquer. En cette rentrée, on vous souhaite surtout de vous en sortir.
Merci Guillaume Meurice. Si vous n'avez pas aimé cette chronique et que vous habitez Saint-Malo, j'ai un petit message même pour vous.
Mais le client que vous avez trouvé, vous l'avez pressé comme un citron. Vous l'avez, bah, vous
là,
l'avez tordu
bon,
dans tous les
bon,
sens.
Bon client, ouais,
c'est
ouais,
inhumain ce que
c'est lui qui a commencé.
C'est pour ça, à Saint-Malo, allez vous venger. Vous jouez avec votre groupe de rock En Marche.
Oui, exact.
Les Disruptives, groupe macroniste.
Oui, tout à fait.
Qui se produira le samedi prochain, le 7 septembre, à la Nouvelle Vague, à Saint-Malo, à Mimaloin et Malouine. Guillaume vous attend, bien
tout
sûr.
Tout à fait.
Vincent Elbaz en notre compagnie, Juliette Arnaud aussi pour nous proposer un deuxième sujet un peu inspiré du thème du film.
Un petit peu. Oui, alors il y a eu une centaine de manifestants qui ont donc foulé le pavé de Boston le week-end dernier pour revendiquer l'hétérosexualité comme modèle opprimé et pourtant sympa et fun. Évidemment, il y a eu d'autres gens qui se sont énervés, c'est normal, c'est assez énervant hein, comme position. Et donc, 1000 contre-manifestants se sont joints pour dire que ça commence à bien faire les conneries et que les hétérosexuels ne sont pas plus opprimés que le gruyère râpé ne l'est par le parmesan. Ce qui compte, c'est de ne pas oublier que l'hétérosexualité, c'est si sympa parfois.
Figure-toi qu'un jour, sur la piste d'In Saoud, je tombe sur un petit ingénieur des pétroles avec sa Land Rover en rideau. Il avait sa bonne femme avec lui, il avait une grande blonde avec des yeux qui avaient l'air de rêver, puis un sourire d'enfant. Une salope, quoi. Moi, je repère ça tout de suite parce que les femmes, c'est mon truc. Alors, aussi, c'est que je propose au petit ingénieur, si vous voulez, j'emmène votre dame à Agdid et puis je vous envoie la dépanneuse. Lebranc dit oui et me blaborait avec la poupée. Alors, sitôt parti, je me mets à conduire d'une main. Et à ce moment-là, on arrive dans la zone des dunes. Alors, je dis à ma finlandaise, est-ce que vous avez déjà vu la rose des sables? Non, qu'elle me fait. Alors, j'arrête le bahut et je dis, voyez la dune là-bas? Et ben, derrière, il y a les plus belles roses des sables de tout le Niger. Et ben, la voulie, allez voir.
Voilà, voilà, c'était Sans mille dollars au soleil, habillé avec dans un film de Henri Verneuil. Ces manifestants,
oui,
qui pensent que l'hétérosexualité n'est pas le modèle dominant, enfin, oui, est le modèle dominant, mais sont.
Et devrait le rester, c'est ça?
Voilà, ouais. C'est surtout une inquiétude. Et donc, ils retournent tous les arguments LGBT comme des gants. Par exemple, ils ont des slogans qui disent si je leur dis que je suis hétéro, vont-ils encore m'apprécier? Voilà, ce genre de choses. Alors, tout est dans la sémantique. Ils disent que, évidemment, ça n'est peut-être pas une réalité, certes, mais c'est leur sentiment d'être opprimé. Quel effet ça vous fait quand vous entendez des...
Oh, ça me fait penser à une série que j'ai vue, là, que je cherchais depuis longtemps, qui s'appelle Transparent, et qui... Vous avez, même si vous avez beau être hyper tolérant, hyper ouvert d'esprit, hyper tout ce que vous voulez, elle vient vous bousculer cette série sur les croyances, sur la sexualité, sur, elle est géniale. Et effectivement, sur cette histoire de genre et de, voilà, de la thèse, en gros, c'est qu'on est, l'autre, c'est une femme, c'est un homme, bon, ouais, c'est peu les deux, c'est pas grave, c'est pas, enfin, on s'en fout, c'est pas, ça peut être l'un ou l'autre, les deux à la fois. C'est un peu, c'est très ouvert comme série. J'ai beaucoup aimé.
Vous la recommandez?
Mais, ouais, je la recommande. Non, mais c'est vrai que cette histoire du genre, là, c'est de besoin de se catégoriser, d'éduquer les garçons et les filles.
Ils se sentent en minorité,
ils se sentent
oppressés.
Mais...
Oui, oui, c'est ça, oui, ils vivent très mal.
En tout cas, autour de cette table, je me sens en minorité en tant qu'hétérosexuel. Ouais. Je
viens vous le dire. Oui, non, c'est vrai. Non, mais je comprends, ça les angoisse, hein. Oui, oui, ça les angoisse profondément, sûrement. Oui, oui, oui. Oh là là. Ouais.
Ils se sentent légitimés pour.
Le truc, c'est qu'ils se sont retrouvés avec 1000 contre-manifestants. Eux, ils étaient une centaine. Ils ont eu plus de 1400.
100 hétéros contre 1000 gays.
Défenseurs LGBT, tout ça. Voilà. Ouais, ouais. Et c'est à se demander si c'est pas contre-productif. Ouais. Non, mais forcément, parce que là, pour le coup, ils ont l'air à nouveau d'être réellement en minorité. Ouais, ouais. Vous pensez que ça vaut le coup de les laisser
C'est aux États-Unis que ça se passe, hein, c'est ça?
Ouais.
Non, mais parce qu'ils ont une, oui, ils ont une façon de voir la liberté d'expression, les communautés aussi. Ils se créent des cultures aux États-Unis. Ils se créent des communautés qui deviennent des cultures, qui deviennent des groupes humains, qui deviennent presque des civilisations, quoi. Il y a un truc. Non, mais c'est vrai, on peut vivre aux États-Unis. On peut se créer un groupe de lunettes de soleil avec t-shirt le Big Lebowski. D'un coup, si on est.
Et calvitie, vous pouvez rajouter là, on parle de Thomas.
Et d'un coup, on devient une communauté, avec presque une culture, quoi. Je crois qu'en France, on fait pas ça, on crée pas ce genre de groupe.
Pas encore.
Pas les mêmes en tout cas.
Club.
Alors le lien qu'il y aurait avec le. Comment vous avez pensé à ce sujet avec le film?
J'ai pensé parce que le film il est à rebours dans les genres justement.
Oui.
C'est Alice Taglioni qui donne des baffes. C'est vous qui n'arrivez pas à bander.
Oui. Bon, enfin, c'est quelques problèmes d'érection.
Andy, bien sûr. Et là, en lisant cette brève, mais qui traduit un truc, enfin les masculinistes, ça existe, ils se font
bien
beaucoup
sûr.
Entendre, ouais, et tout ouais, ça, et oui, tout ça. Vrai, je me disais que ça peut-être ça vous parlerait.
Non, mais ça me parle pas forcément dans le sens où j'ai pas envie forcément de m'engager dans ce combat.
Ah ben c'est bien, on est rassuré.
Non, c'est pas un combat qu'il faut mener, non, je crois pas. Enfin, non. Non, j'ai pas d'angoisse particulière
en tant qu'homme.
Concernant ma virilité, ma place d'homme.
Sentez pas
dans
menacé.
Le monde, dans la société, je me sens pas menacé. Non, ça va. Non. Non, mais c'est vrai que ça m'est arrivé de me faire draguer. Je me souviens en boîte par 3 meufs bourrées. Et alors elles ont insisté. Puis je leur disais non. Puis elles insistaient. Puis elles y allaient quoi. Je dis mais c'est marrant, c'est comme les mecs, vous êtes plus lourdes que les mecs quand ils sont bourrés.
Ah non, mais sauf ça, c'est l'alcool, ça nous met tous à égalité.
Non, juste la différence ce jour-là, c'est que je me suis dit, je me sens pas en danger moi physiquement. Avec les trois gonzesses bourrées qui se marrent, en fait elles se foutaient de mal, elles se marraient quoi. Vous voyez un acteur qu'elles connaissent, elles avaient envie de toucher, de tripoter, je sais pas. Enfin,
bon. Elles vous avaient confondu avec Rushdie.
Elles m'avaient confondu avec Rushdie, voilà, c'est ça. Oui.
C'est vrai que c'est toute la différence.
Ouais,
se sentir en danger.
Et je me suis pas senti en danger à aucun moment, alors que je pense qu'en tant que femme, si on se retrouve encerclé par 3 mecs bourrés dans une boîte, peut-être qu'on peut commencer un peu à s'angoisser. C'est la différence, quoi. Voilà.
Vincent Elbaz avec nous pour un film intitulé Andy qui sort en salle mercredi, que Thomas Croisier a vu.
Par Jupiter présente le cinéma de Thomas Croisier.
Pourquoi vous me faites ça, Vincent Elbaz? Pourquoi, pour jouer un loser, vous vous inspirez de moi? Nous avons ici tous vu que pour votre rôle dans Andy, vous avez fait exprès, comme moi, de prendre autant de kilos que vous avez perdu de cheveux. D'ailleurs, comment s'appelle votre personnage déjà?
Andy.
Thomas, pardon. Thomas, quel hasard! Et je ne parlerai même pas de ses problèmes d'érection, parce que vous savez très bien que ce sont des rumeurs. Alors oui, une fois, en 1993, j'ai eu la grippe et ça marchait un peu moins bien. Mais là, on est en 2019, mon vieux, et j'ai un sexe magnifique et puissant. Un sexe en marche. Et le choix de votre partenaire, il est anodin? Non, c'est Alice Taglioni qui passe ses étés où, si j'en crois la presse spécialisée? Au Cap Ferret. Comme qui? Encore moi. En plus, alors que je ne participe qu'une fois tous les 2 mois à l'émission, et encore que les mois ombreux comme les huîtres, vous venez quel jour? Celui de ma rentrée, alors que votre film sort après-demain, donc vous auriez très bien pu venir demain. Mais vous savez quoi? Je vais faire comme si de rien n'était, parce que je suis au-dessus de ça. Votre personnage est donc l'occasion de vous proposer un top 3 de mes losers préférés au cinéma. Numéro 3.
Qu'est-ce qui vous arrive? Ça fait des mois que je pleure. J'emmerde tout le monde avec ça. Et pour une fois qu'on me demande...
Les compères, dans lequel jouait Michel Aumont, paix à son âme. De SS 117 à Grégoire Moulin, en passant par Les Apprentis ou Les Bras Cassés de la bande à Fifi, le loser a donné quelques-uns des plus beaux rôles de comédie française. Et le plus célèbre d'entre eux s'appelle François Pignon. Personnage signature de Francis Weber, qui prit les traits des Jacques Brel et Villeray, Daniel Auteuil, Gad Elmaleh et de l'indépassable Pierre Richard, nommé aussi parfois François Perrin. Un personnage, comme le décrit son créateur, qui, qu'il fût suicidaire dans L'Emmerdeur, malchanceux dans La Chèvre ou con dans Le Dîner de cons, est toujours le même petit homme dans la foule plongé dans une situation qu'il dépasse et dont il parvient à se sortir en toute inconscience. Votre Thomas s'inscrit dans cette filiation et si nous aimons tant ces losers, c'est parce que tel Jean-Claude Duss, nous nous sommes tous dit un jour, sur un malentendu, ça peut marcher. Numéro 2.
I am not Mr. Lebowski. You're Mr. Lebowski. I'm the dude. So that's what you call me, you know? That or his dudeness or duder or, you know, El Duderino, if you're not into the whole brevity thing.
Are you employed, sir?
The Dude, l'homme le plus cool du monde tant qu'on ne pisse pas sur son tapis. Dans The Big Lebowski. Les frères Cohen créent ici la plus belle galerie de losers de l'histoire. De Jeff Bridges, qui n'a d'autre intérêt que le bowling, la Marie-Jeanne et les White Russians, à John Goodman, en vétéran du Vietnam, qui ferait passer Rambo pour un mec modéré, en passant par Steve Buscemi ou l'impeccable John Turturro en The Jesus, tout en combinaison violette, catogan et Gypsy King. Ce film est un bonheur de porte-nawak et what the fuck, ou en langage France Inter, un film jubilatoire et déjanté. Les cahiers du cinéma écrivirent à l'époque que cette insistance permanente sur la nullité métaphorique et littérale des personnages finit par limiter un peu les propos de l'œuvre. Eh bien, on s'en lustre les boules de bowling et on kiffe. De Charlot à Woody Allen, en passant par les inadaptés de Tim Burton ou les abrutis des Farrelly, les losers sont aussi des piliers de la comédie américaine. Votre réalisateur, Julien Veil, s'est nourri de ces films, comme le prouve la scène du Hilton, où votre gaucherie rappelle celle de Dustin Hoffman au Taft Hotel face à Mrs. Robinson dans Le Lauréat. Les derniers grands losers du cinéma américain sont joués par Brad Pitt et Leonardo DiCaprio, et c'est parce qu'il est lui aussi cinéphage que pour raconter son « Il était une fois Hollywood », Quentin Tarantino a privilégié à deux winners pathétiques, deux losers magnifiques. Numéro 1.
Je t'aime, océan immense de mon âme. Ta plainte, teintée d'écume, meule, un amer mélange.
C'est très beau. De qui est-ce ?
De moi.
Le magnifique, justement, de Philippe de Broca, qui faisait déjà du Tarantino alors que ce dernier n'avait que 10 ans. On y retrouve ses obsessions pop, pulp et parodiques, servies par un Jean-Paul Belmondo qui uber-cabotine en mode SAS dans le rôle du super-agent Bob Sinclair, nom qui inspira le célèbre DJ. Ainsi qu'en loser amoureux de Jacqueline Bisset, et on le comprend, François Merlin. Et savez-vous pourquoi il se prénomme François ? Parce qu'on retrouve Francis Weber à l'écriture du scénario original. Belmondo, qui vous inspire lorsque vous jouez le malade sous votre couverture dans Andy, ou lorsque vous incarnez le super flic dans Liberté de Pierre Salvadori. Et savez-vous qui a dit « Belmondo, ce n'est pas seulement le nom d'une star de cinéma, ce n'est pas seulement le nom d'un homme, cela représente la super coolitude. » Quentin Tarantino. Et savez-vous ce que Belmondo a dit de Tarantino ? Rien. Et ça, c'est vraiment la news. Alors, vive de Broca, Cohen et Weber, et par-dessus tout, vive le cinéma,
De Thomas Croisière. Merci Thomas. Une réaction, Vincent Elbaz ?
Bravo, super chronique.
Merci Thomas. On va aborder ce dernier sujet rapidement pour les ados. Réussir sa rentrée, c'est réussir son look de rentrée, tel Thomas Croisière avec son t-shirt Dude et ses lunettes de soleil. Pour les filles, il y a le jean taille haute et hanches larges, le jean comme maman.
Mom.
Voilà, par exemple. Mais la distinction filles-garçons en matière de look n'est plus très pertinente. Ils privilégient tous deux ceci. La claquette chaussette, bien sûr.
Évidemment.
Chaussette montante pour les garçons. Un article paru dans le Parisien aujourd'hui en France hier. À la lecture de cet article, Juliette Arnaud s'est écriée « Ah non, ça va pas recommencer !» Quand vous voyez les ados aujourd'hui, vous avez une fille qui...
Oui, j'ai reconnu le t-shirt NASA dans le Parisien avec
ah
le
jogging
à rayures.
Donc ça, c'est vraiment les ados s'habillent comme ça.
Je sais pas, une boutique où ils en trouvent tout, là.
Ouais.
Effectivement, à un moment donné, elle insistait sur le jogging à rayures, mais porté comme un pantalon. Je comprenais pas le concept. Il y a un truc qui m'échappait dans Ouais.
Et vous vous reconnaissez
à deux? J'ai laissé faire.
Ouais. Dans les choix, vous reconnaissez à deux ou pas? Vous portiez quoi, vous?
Alors, ça m'est arrivé vraiment rarement de porter un jogging avec des boots. Je veux que je sois honnête. J'ai fait une fois. Et mes parents ont regardé partir.
Ouais.
Agen, ouais. On est dépité de me voir partir en RER, prendre mon RER pour aller en soirée et tout avec un jogging et des boots.
Donc oui, c'est l'image marquante.
Ouais, ils m'ont regardé vraiment comme une merde ce jour-là.
Vincent Elbaz, jogging boots. Je pense que c'est bien pour l'image.
Mais Andy aurait pu s'habiller comme ça. Ouais,
oui, c'est vrai. Vincent Elbaz.
Je vais le porter en moi à ce moment-là.
Juliette Arnaud a une proposition à vous faire.
Oui. on propose toujours à l'invité de faire, enfin toujours, souvent, surtout quand on a un acteur, surtout quand on a un excellent acteur, de faire un sketch.
Oui.
Le thème du sketch, c'est que Cédric Villani devrait cette semaine lancer sa candidature pour la mairie de Paris en 2020. Et depuis cet été, on a noté un changement conséquent de look chez Cédric Villani. Donc voici son équipe de com qui a su trouver les mots pour le métamorphoser. Vincent, vous êtes Cédric Villani, Charlène et Guillaume sont vos chargés de com.
Attendez.
Ce qui est surligné, c'est pour vous.
Oui, parce que je suis que acteur, moi, vous savez. J'ai pas de, voilà,
on découvre le texte en même temps que vous, vous inquiétez pas.
Allez-y.
Il n'y a pas de piège.
Bon, écoute Cédric, pour Paris 2020, il va falloir que tu changes quand même 2-3 détails.
Ah bon ?
Ouais, je suis désolé de le dire, mais tu fais peur aux gens.
J'ai même pas encore dévoilé mes idées.
Non, mais c'est pas tes idées, le problème, c'est ton look.
Et t'en fais pas, on va résoudre l'équation. Humour de com.
Mon look, il a quoi ?
Bah, les gens t'appellent le Lady Gaga de la politique, c'est qu'il y a un problème quand même, non ?
Elle est hyper moderne, Lady Gaga.
Non, mais ça dépend, t'es candidat chez Michou ou à la mairie de Paris, là ?
Déjà, tu vas décrocher l'araignée de ta veste.
Hein. Voilà, le gars, il a reçu la médaille Fields et il préfère épingler une bestiole à sa veste.
Bah, une bestiole, c'est une arachnée. Lupusis.
Mais tu fais flipper tout le monde avec ça.
Préférer un scarabée ?
Non.
Ah, sinon, à une époque, j'avais un corbeau sur l'épaule.
Non, laisse les animaux tranquilles. Ça, c'est un coup à un ancien spécis sur le dos.
Ouais, si tu veux mettre un insecte, tu te mets un nœud papillon à la rigueur. Mais il faut que tu la joues plus sobre.
Oh, pitié, pas de costume bleu marine cintré. Là, je veux pas ressembler à tous les autres députés de la République de En Marche.
Non, mais c'est pas le but. Il faut que tu retires cette lavalière déjà. Tu te lances pour Paris 2020 ou pour Paris 2020 ?
Non, on va passer au dossier capillaire. Ça sera
mieux. Vous voyez ou quoi ? J'ai les cheveux les plus soyeux de toute l'Assemblée.
Ah, il a pas tort, parce que déjà, lui, il a des cheveux. Hein. Humour de coiffeur.
Bon, ok. On va te faire une coupe façon Vincent Elbaz dans Le Péril Jeune.
Okay. Ouais, j'aime beaucoup le style Vincent Elbaz.
Alors maintenant, on va passer à tes interviews. Personne ne pige rien quand tu parles.
On dirait du Eric Cantona qui aurait bouffé Françoise Sagan.
Ah bon, pourtant, l'expression orale de mes pensées conforme la dialectique du projet dans lequel moi et mon action se lancent.
Voilà.
Typiquement, ce qu'il faut pas faire.
Les Parisiens sont des gens débordés. Il faut aller vite, il faut faire simple. Jamais plus de 90 mots.
90 mots par phrase.
Ah, 90 mots en tout. Rien en dessous de Griveaux, ça passe.
Avec le logarithme népérien de son QI.
Comment ? Comment ?
Qu'est-ce que c'est fait ?
Non, bah, c'était un humour de mathématicien.
Merci Vincent Elbaz d'avoir passé
on l'engage.
passé cette heure avec nous. C'est en mercredi que sort en salle Andy, le film réalisé par Julien Veil, premier long métrage de Julien Veil avec Alice Taglioni, Philippe Cura, Jacques Weber, Brigitte Rouen ou Alison Paradis au casting. Merci les amis, merci à tous. Juliette Arnaud, bien sûr. Thomas
Il y a une
Croisier.
Avant-première le 3 septembre à l'Élysée Biarritz.
Je
pense que tout le monde peut venir si je veux. Je sais pas.
Bah, là, ils sont prévenus.
C'est ouvert,
c'est trop
ouvert
tard.
À tous, j'ai l'impression. Si, je crois.
Très bien, ah ben voilà.
Enfin, je crois. J'ai reçu un carton, il y avait marqué pour tout le monde. Donc,
allez, bientôt 18h à Biarritz. Alors, on vous dit à demain où nous recevrons Jean-Noël Jeannonnet, qui publie une histoire de la presse. Jean-Noël Jeannonnet, qui a été ministre dans les gouvernements d'Edith Cresson, de Pierre Bérégovoy, et c'est l'ancien président de Radio France.
Monsieur le Président, mon éminence, à vos ordres, mon éminence, à vos ordres.